Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. Au matin, j'ai marché quelques kilomètres avec Sophie. Nous avons tranquillement continué nos confidences, pris un café ensemble, et je dus me résoudre à m'arrêter peu avant la mi-journée. Il fallait bien l'admettre, une nouvelle tendinite avait élu domicile en ma jambe droite. Nous nous sommes dit adieu. Je m'assis sur un banc, calme, sans trop m'inquiéter. Je suis resté assis là une bonne heure, à méditer, à contempler. J'étais totalement là. Une mamie vint s'asseoir à mes côtés, m'offrit quelques biscuits, qu'elle sortit de son sac, puis s'en alla. Me sentant un peu mieux, j'ai continué de marcher jusqu'à Villarcasar de Sirga. Je pris un lit dans le Donativo, où je retrouvais Mehdi, rencontré la première fois à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mehdi était à bout, un sacré personnage. Il se présentait comme un acteur germano-turc, parti sur le chemin de Saint-Jacques, pour montrer qu'un musulman peut marcher aux côtés des chrétiens, en toute amitié, sur un chemin de pèlerinage. J'aimais beaucoup cette démarche. Malheureusement, je me rendis vite compte qu'il n'était pas forcément le meilleur représentant de sa religion. Bourré comme une valise du matin au soir, il finissait la plupart de ses étapes en taxi. Ajoutons à cela son obsession pour les culs et son irrépressible besoin de combler leur vide lorsqu'il en croisait un. Il n'en était pas moins un très sympathique bonhomme, haut en couleur. Quelques minutes plus tard, je retrouvais Jean-François et Caroline, rencontrés à Navarinx. Quel plaisir de les retrouver et d'apprendre à mieux les connaître. Nous sommes allés prendre un verre ensemble sur la place du village, où nous fûmes rejoints par un couple de touristes qui se rendaient au Portugal. Au fil de la conversation, l'étape du lendemain est venue sur la table. J'appris qu'elle serait de 18 km sans rien. Ni point d'eau, ni commerce, ni route, rien. Compte tenu de ma tendinite, le couple de touristes m'invita à me conduire en voiture peu avant Sahagun. J'étais très embêté, car cette étape me faisait baver d'envie, mais je n'avais aucun moyen de repli en cas de pépin. Étant au sommet de la douleur et me sentant totalement incapable de marcher cette distance, je pris leur proposition comme un cadeau du ciel. Nous en retournant au gîte, Jean-François et Caroline, et moi, fîmes la connaissance de Bastien, un jeune financier tout droit sorti d'un burn-out. Nous avons passé la soirée à causer théologie, ce qui était musclé compte tenu de l'athéisme prétendu de ce dernier. Mais comme toujours, son athéisme n'était qu'un refus de son esprit. Je n'ai jamais rencontré un seul vrai athée de ma vie. À chaque fois que quelqu'un s'est présenté ainsi à moi, j'ai pu constater qu'il avait tout de même foi en quelque chose. Et bien souvent, les plus combatifs sont en réalité en colère contre Dieu. C'était le cas de notre nouvel ami. Arrivé à Sahagun, étape importante pour les pèlerins puisqu'elle représente la moitié du Camino Frances, je me demandais si j'allais tout de même marcher un peu ou non. Quelque chose me disait qu'il me fallait rester dans cette ville. Je l'ai arpenté en long, en large, en claudiquant, mais rien. Pourtant, j'étais sûr que c'était bel et bien ma place. Qu'à cela ne tienne, je me suis allongé sur le banc, en pierre, de la place principale, disant à Dieu de me réveiller quand il aurait besoin de moi. Quelques minutes plus tard, je fus réveillé par Luis et Vénus, les Mexicains rencontrés à Itero del Castillo. Ils venaient d'arriver et allaient se chercher un lit à l'albergue municipal, où ils souhaitaient m'inviter. J'acceptais avec plaisir. Après la messe du soir, Luis me dit qu'il serait pour eux un honneur de m'inviter à dîner. À table, la conversation ne se faisait qu'entre Luis et moi. Vénus avait fait vœu de silence pour la journée. Elle le regrettait amèrement pendant le repas. Les sujets la passionnaient. Elle brûlait d'envie d'intervenir pour donner son assentiment, compléter ou avancer sur nos propos. De temps à autre, elle écrivait sur son smartphone et le passait à Luis pour qu'il nous fasse part de ses considérations. Un mot finit par lui échapper. « Jesus !» C'était au moment où j'expliquais, tout en pressant la bouteille de vin au-dessus du verre de Vénus, comme pour l'essorer et en extraire la dernière goutte, que lorsque l'on écoute son cœur, on ne manque jamais de rien. Même pas de vin. À ce moment-là, un homme de la table voisine, s'en allant, vint nous donner sa bouteille de vin remplie presque aux trois quarts, nous disant qu'il n'en voulait plus. « Qu'est-ce que je disais ? » dis-je en souriant de cet heureux hasard. Vénus se mortifia d'avoir parlé. Il y avait pourtant peu de chances que Dieu ne lui en tienne rigueur. Personnellement, je ne crois pas qu'il attende que qui que ce soit fasse vœu de silence. Réveillé à 4h30 par une bande de ritales fort bruyants, j'ai traîné jusqu'à 10h dans la ville avant d'avancer à la suivante. Calzada del Coto, où après 5 km de marche, j'allais m'arrêter pour la nuit. Ma jambe me faisait toujours mal. Arrivé vers midi, je suis passé devant le bar où Fernando m'interpella d'un « Oh, qué día tan bonito !» Il m'invita à boire une bière en compagnie de ses nouveaux amis. Quelques minutes plus tard, Sophie arriva me disant « Bah, Flavien, tu voles ?» Toute surprise de me trouver en ce lieu avant elle. Fernando, s'apprêtant à partir avec son nouveau groupe, me demanda de les accompagner. Je n'étais pas en état. Il m'offrit 5 euros, me serra dans ses bras et me dit adieu. Je m'offris un verre de vin et en proposai à Sophie qui préférait décliner l'offre et siroter dans mon verre et les deux autres qui suivirent. Elle hésitait à continuer un peu ou à s'arrêter. Les discussions s'enfilant, il n'était plus l'heure de marcher. Nous avons partagé le dîner, dans le sens où elle avait les pâtes et la sauce et moi le réchaud à gaz, et passé la soirée à discuter, rire et nous confier. Première fois depuis mon départ sur le chemin, c'est l'hospitalier qui m'a réveillé. Sophie s'apprêtait à partir, je la saluais dans la cuisine. Il y avait peu de chances que l'on se retrouve à nouveau. Elle allait emprunter la voie romaine et moi le chemin classique. Le chemin qu'elle allait prendre m'aurait plu, mais n'étant pas totalement rétabli, ça me rassurait de longer une route fréquentée. En chemin, je fis la rencontre de Benoît, un jeune d'une vingtaine d'années parti avec son meilleur ami. Ce jour-là, ils avaient décidé de marcher chacun de leur côté et de se retrouver le lendemain. Benoît souffrait d'un cancer qui l'empêchait d'exercer son métier, sa passion, la musique. Il était clarinettiste. Nous avons marché jusqu'à El Burgo de Ranero, où nous y avons passé la soirée à picoler et fumer des clopes dans un bar tout en philosophant. La conversation finit par toucher le sujet de l'amour. Il estimait que l'amour souffrait tout de même quelques conditions, qu'il devait répondre à certains critères de complémentarité. Je crois, lui dis-je, que bien au contraire, l'amour ne souffre aucune condition, aucune attente en l'autre. Je crois en l'amour inconditionnel, alors pas seulement au sujet du couple, mais ce n'est pas l'objet de la conversation. Qu'un couple ne doit pas être la réunion de deux personnes qui se choisissent parce qu'ils sont ensemble la parfaite complémentarité sexuelle et ou intellectuelle, ou parce que l'autre vient combler un vide affectif. Au contraire, je crois qu'aimer inconditionnellement, par définition, ne souffre aucune condition. Qu'un tel amour célèbre l'union de deux individus complets qui s'aiment tels qu'ils sont, sans chercher à modifier l'autre pour qu'il corresponde à des standards sociaux ou de magazines, sans que les amants n'attendent quoi que ce soit d'autre que de partager leurs pleines individualités, qu'elles soient complémentaires ou non. Choisir cette union permet à l'un comme à l'autre de continuer d'être lui-même, sans dépendance, et de s'élever ensemble et individuellement vers une meilleure version de soi. Parce qu'à ce moment-là, on comprend que le seul accord véritable entre deux êtres qui s'aiment inconditionnellement, c'est le respect absolu du libre arbitre de chacun, de l'indépendance de l'autre, du consentement mutuel. On choisit d'être ensemble parce que l'on s'aime et qu'ensemble, nous avons envie de nous aider à grandir. Bien sûr, ce n'est pas parce que l'on n'y arrive pas que l'on n'aime pas l'autre. Généralement, c'est parce que l'on ne s'aime pas suffisamment soi-même. Alors on voit l'autre comme un pilier ou un obstacle, parfois. Dans le fond, c'est la même chose. Il faut bien comprendre dans ce cas que l'autre n'est pas l'obstacle. C'est notre propre dépendance que nous avons placée en l'autre qui l'est. S'en affranchir, c'est faire un pas vers l'amour inconditionnel. Aime ton prochain comme toi-même. Il est impossible de donner ce qu'on n'a pas. Si tu ne t'aimes pas, quel amour peux-tu prétendre offrir en partage ? Alors aime-toi et partage cet amour. Il n'est pas fait pour être gardé. Et plus tu partages, plus tu aimeras. C'est un divin et infini cercle virtueux. C'est pourquoi il est fondamental d'apprendre à s'aimer. Non content d'élever ton âme, tu élèveras aussi celle du monde. Car c'est bien le manque d'amour qui l'a transformé en champ de bataille. C'est bien parce que l'on nous apprend à nous battre les uns contre les autres, à tirer la couverture à soi, et que l'on ne s'aime pas, qu'il existe encore aujourd'hui tant de guerres et de pauvreté dans le monde. Nous avons sans doute tous déjà souffert d'une déception amoureuse. La plupart d'entre nous préfèrent se fermer à l'amour, pensant, à cause de cette souffrance passée, que donner son amour, c'est se rendre vulnérable. Donner la possibilité à l'autre de se faire atteindre. Alors que c'est le sentiment, l'émotion, la force, l'énergie la plus puissante de la création. Lorsque l'on est vraiment capable de se laisser aller à l'amour, sans crainte, alors tout devient possible. Je suis parti bien avant que Benoît ne se réveille. Ma jambe allait mieux. Elle s'était même miraculeusement réparée dans la nuit, plus aucune douleur. J'ai tout de même marché sans forcer jusqu'à ce que j'arrive vers 16h à Manzilla de las Mulas. Un grand blond rachitique qui n'avait pas une chaussure noire, au français approximatif qui laissait poindre un accent italien, vint me demander de l'argent. J'avais 2 €, je lui les ai donnés en m'excusant de ne pouvoir faire plus, mais qu'il avait l'honneur de se voir remettre l'ensemble de ma fortune. Il explosa de rire, me rendant mon argent, et m'invita à boire une bière. Le grand blond rachitique qui n'avait pas une chaussure noire, au français approximatif qui laissait poindre un accent italien, s'appelait Ricardo. Il avait parcouru le Camino del Norte jusqu'à Saint-Jacques et s'en retournait en sa terre natale par le Camino Frances. Nous étions alors en juin et il estimait arriver chez lui d'ici le mois de septembre. Ce courageux garçon qui avait un budget très limité s'en remettait parfois à la générosité des gens pour se nourrir et dormir. Après m'avoir compté son chemin, il me demanda d'en faire autant, craignant d'avoir du mal à survivre en France quant à son faible budget. Il était rassuré d'entendre que la bonté humaine ne se limite pas aux frontières géographiques. Il me demanda de lui apprendre quelques phrases essentielles pour traverser la France en toute quiétude, ce qui nous valut de grands fous rires. Et c'est d'ailleurs au cours d'un de ces fous rires qu'une voix descendit du ciel et me dit avec humour « Flavien, tu rigoles trop fort, j'arrive pas à faire la sieste !» Je reconnus la voix de Sophie qui nous a rejoints quelques minutes plus tard, suivie de près par une de ses rencontres, Sylvia, une Italienne. Nous avons bavardé un long moment, tous les quatre, puis je me suis retrouvé seul avec Sophie. Elle n'était plus comme les 2 dernières fois. Elle était emprise au doute. Elle me dit avoir repensé à nos discussions et ne pas savoir exactement ce jour-là ce que signifie écouter son cœur. Je lui répondis qu'écouter son cœur, c'est suivre ce qui nous fait vibrer. Écouter cette voix qui dit « j'aime » et non pas celle qui dit « je ne sais pas si j'aime ». Celle qui chante « je veux faire ça » et non celle qui doute. Le cœur chante, la tête doute. C'est son rôle. Elle est là pour te protéger de tes peurs et te faire fonctionner vitalement au quotidien. Le cœur, l'âme, n'a peur de rien. Elle sait ce qui est bon pour toi, et c'est bien elle qu'il faut suivre, parce qu'elle a toujours raison. Mais cela demande de s'affranchir de ses peurs. Le soir tombait, il me fallait continuer. Ricardo, revenu en terrasse, proposa de m'offrir la nuit. Je ne souhaitais pas alourdir son budget et décliner l'invitation. Il insista, me disant que s'il est généreux avec moi, d'autres le seront avec lui quand il en aura besoin. Je lui expliquai que cela ne fonctionnait pas ainsi. Si tu donnes pour recevoir, alors tu ne recevras rien. Il me serra dans ses bras et me dit adieu. « c'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.